C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, vient de publier un nouveau rapport qui, comme à chaque fois, fait froid dans le dos. 900 pages inquiétantes compilent les données scientifiques existantes sur l'état des océans et de la cryosphère, la banquise, les glaciers, les calottes polaires et les sols gelés. Le constat est alarmant, disparition massive de la biodiversité, augmentation du niveau de la mer, acidification, migration. Si nous n'empêchons pas le dérèglement climatique, et c'est mal parti, nous allons vers des scénarios dramatiques. Les scientifiques le répètent, les citoyens s'inquiètent, mais aucun décideur politique ne semble voir venir la tempête.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Françoise Gaël.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, océanographe, directrice de recherche émérite au CNRS et coordinatrice scientifique de la plateforme internationale Océan et Climat qui regroupe plus de 70 instituts scientifiques et ONG. Alors ce rapport était très attendu.
Oui, il était très attendu et nous sommes heureux qu'il soit sorti parce que nous avions, dès la préparation de la COP21, avec Monaco, avec la France, avec les petits États insulaires, souhaitaient ardemment que l'océan puisse être pris en compte dans les discussions sur le changement climatique. Et voilà, ce rapport-là est pour la première fois une proposition qui nous permet d'agir après, en toute connaissance de cause.
Alors, 5 grands thèmes sont abordés dans ce rapport. Réchauffement, fonte des glaces, montée du niveau des eaux, événements extrêmes et désoxygénation, c'est dur à dire. Autant de phénomènes alarmants qui constituent de véritables défis, vous le disiez, pour l'avenir. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler le rôle que joue l'océan dans l'équilibre de la vie sur Terre ?
Oui, bah écoutez, si on n'avait pas l'océan, on ne serait pas là, puisque la vie d'abord a commencé dans les océans. Il faut savoir que nous venons des océans. Et puis la deuxième chose, c'est que cet océan, c'est le plus grand réservoir d'eau dont nous avons besoin. Ça passe, cette eau douce passe aussi par l'océan. Et puis aussi, cet océan nous permet de respirer de l'oxygène. Et les écosystèmes qui sont dans l'océan ont été en grande partie à l'origine de 50% de l'oxygène que nous respirons. Et puis enfin, le reste, c'est l'océan recycle tous les éléments qu'il y a sur Terre, ce qui est une petite un moyen, disons, d'avoir une atmosphère saine.
Alors, il est aussi au centre de la régulation du climat.
Oui, l'océan régule en grande partie l'ensemble du système climatique, parce que la chaleur qui est la conséquence des gaz à effet de serre, donc des activités humaines, est à 90% concentrée dans les océans. L'océan absorbe toute cette chaleur. Et imaginez la Terre, si nous n'avions pas l'océan, le changement climatique serait d'abord une température intolérable et nous ne survivrions pas sur Terre.
Alors, ce rapport pointe plusieurs problèmes. Tout d'abord, l'océan se réchauffe. Alors, pourquoi et quelles sont les conséquences de ce réchauffement ?
Oui, alors donc c'est ce que je viens de dire, à savoir les émissions anthropiques dégagent de la chaleur et cette chaleur est absorbée par l'océan. On ne sait pas très bien d'ailleurs quels sont les processus de cette absorption, où ça va, jusqu'à quand, comment ça marche. C'est le GIEC nous apporte là un certain nombre d'éléments sur ces questions-là. Et donc, ce changement de température de l'océan va avoir des incidences, d'une part sur aussi l'élévation du niveau de la mer. Mais vous savez, quand la température augmente, l'eau se dilate et donc le volume de l'océan augmente de par l'augmentation de la température. Et puis la température qui s'élève entraîne aussi la fonte des glaces, donc renchérit sur l'élévation du niveau de la mer. Voilà un exemple concret qui montrent l'importance de l'océan par rapport à ça. Et les impacts sont non seulement sur les populations humaines littorales qui bordent les bords de mer, mais aussi sur les écosystèmes, puisque certains écosystèmes ne vont pas pouvoir rester là où ils avaient une certaine température comme habitat. Ils vont être obligés de migrer. Alors c'est assez facile pour les espèces qui peuvent nager, comme les poissons par exemple. Et c'est vrai qu'on observe des migrations d'espèces des tropiques vers les pôles. Mais par exemple, il y a d'autres écosystèmes qui ne peuvent pas migrer. C'est ce qu'on appelle les habitats benthiques, qui sont sur le fond, qui sont accrochés à ce fond et qui, là, risquent d'être décimés dans l'avenir avec une élévation de la température de l'eau.
On pense notamment aux coraux, évidemment.
Voilà, alors les coraux sont les écosystèmes emblématiques, puisque là, c'est vrai que nous avons en plus des observations qui ont été faites ces 10 dernières années et qui montrent qu'il y a des vagues de chaleur qui entraînent un blanchissement des coraux. Et à terme, si vraiment là, nous ne faisons rien par rapport à l'accroissement de la température de l'atmosphère, nous risquons, en tout cas par exemple, dans le côté barrière de corail, d'avoir au moins 80 à 90% de perte des coraux.
Sachant que les coraux sont les nurseries de l'océan, donc évidemment cela a un impact fort sur la biodiversité. Et alors le rapport du GIEC s'intéresse à l'océan austral, qui représente 10% de l'océan mondial, mais qui reste très méconnu. Quel est cet océan austral et pourquoi est-il important ?
Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que vous avez les deux pôles, vous avez deux systèmes qui sont différents. L'Arctique, en fait, c'est un océan, donc c'est le pôle Nord. Et lui, l'Arctique, est le plus impacté puisque finalement les glaces disparaissent et la banquise fond. Ça, tout le monde le sait. Par contre, l'Antarctique, on sait moins, c'est un continent. Et donc, vous avez autour un océan austral qui reçoit l'ensemble des courants de tous les océans, que ce soit l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien, etc., et qui est entouré par une sorte de courant qui fait le tour de l'Antarctique et qui est une sorte de barrière. Et cet océan Arctique peut jouer un rôle pour pondérer un peu les changements climatiques et les modifications, par exemple, de circulation océanique. Donc c'est quelque chose de très important, cet océan austral.
Et cet océan austral est aussi impacté, évidemment, par le dérèglement climatique.
Oui, cet océan austral est en fait celui qui reçoit l'ensemble de la circulation de tous les océans, Pacifique, Atlantique, Indien, et comme un bourrelet autour de l'Antarctique qui permet pour l'instant en tout cas de penser que même si l'Antarctique se réchauffe, il peut y avoir un mouvement de résistance de cette partie de la planète permettant d'avoir une ressource en glace qui sera conservée.
Alors le rapport parle aussi du risque de l'augmentation des événements extrêmes, notamment comme les cyclones qui affecteront des écosystèmes et des sociétés vulnérables, déclenchant des phénomènes en cascade. Alors cela est dû à l'augmentation des vagues de chaleur en mer. Alors les vagues de chaleur sur Terre, on connaît, en mer on connaît moins, expliquez-nous. Des vagues de chaleur qui ont été multipliées par deux depuis 1980, j'ai lu dans le rapport.
Ce concept-là, pour la première fois dans la communauté scientifique, et c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est une analogie avec ce qu'on connaît dans l'atmosphère. Mais l'atmosphère, ça va très vite. L'atmosphère, la durée de vie des phénomènes est de l'ordre de la seconde, de la minute maximum. Alors que dans l'océan, il faut presque 1000 ans pour qu'une goutte d'eau revienne au même endroit. Donc, par rapport à ça, on voit qu'il peut y avoir des vagues dans certaines parties de l'océan, par exemple c'est le cas dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, et qui vont être couplées avec les phénomènes météorologiques, les vents en particulier, et qui entraînent, qui passent, quoi, dont la temporalité est de l'ordre de la semaine, ce qui est beaucoup plus grand que dans l'atmosphère, mais qui est quelque chose qu'on commence juste à identifier comme importante pour et prévisible potentiellement. C'est ça qui est intéressant. Prévisible potentiellement par rapport aux risques que les populations littorales auxquelles elles peuvent faire face, ces populations.
Mais sachant qu'il y a un tiers de la population mondiale qui habite à moins de 100 km des côtes. Donc quand on parle de cyclones, d'élévation du niveau de la mer, d'impact sur la biodiversité avec déplacement des espèces, toutes ces informations sont très inquiétantes pour l'avenir de l'humanité.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que le GIEC promeut le développement de ce qu'on appelle les systèmes d'observation qui permettraient d'avoir un suivi en temps réel de ce qui va se passer et qui permettrait aussi aux populations d'avoir un apprentissage un peu social du risque qui pour l'instant n'est pas du tout développé, en tout cas dans nos civilisations côté hémisphère nord.
Alors Françoise Gayle, le week-end dernier, plus de 4 millions de personnes ont manifesté dans 135 pays. Ils ont manifesté leurs inquiétudes face à la dégradation de l'environnement. Une mobilisation que l'on a aussi vue en France fin août durant la semaine précédant le G7. Comme la réunion des 7 puissances économiques avait lieu au bord de la mer, à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, eh bien la communauté des surfeurs s'est mobilisée pour porter la voix de l'océan face aux dirigeants politiques. L'association Surfrider a organisé 4 jours de conférences portant justement sur l'océan, son rôle dans la régulation du climat, ses pollutions, sa biodiversité. Vous étiez d'ailleurs à ces jours de conférences. Et à Guétari, petit village sur la côte basque française, 350 personnes, tous munis de planches de surf, se sont réunis pour une marche pour le climat, mais version océan. Fin août a eu lieu la dernière édition, donc de RAM pour ta planète. Pendant 10 mois, les surfeurs se retrouvaient chaque premier samedi pour ramer ensemble et sensibiliser à la protection de l'océan. Manon Meyer-Hilfiger s'est rendue sur place le 22 août à l'occasion des conférences et de l'ultime manifestation des surfeurs.
Là, on arrive au spot de départ de RAM pour ta planète. C'est le port de Guétari. En fait, il y a plusieurs planches de bois qui sont plantées dans le sable avec des messages dessus.
Alors, ta chance, c'est l'océan. Gaffe à lui.
Ramasse ton plastique, vague magique. Elena, tu as participé à toutes les rames jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, en fait, je fais partie bénévolement vraiment du collectif de personnes qui ont initié le mouvement Rame pour ta planète. Et du coup, voilà, ouais, depuis octobre dernier, tous les mois, je rame avec le collectif Rame pour ta planète. Initialement, vraiment, quand on a démarré l'action, on voulait vraiment se dire que le plus important sur notre action, c'était d'avoir une portée peut-être médiatique ou quoi. Effectivement, ça permettra de donner un impact plus important à notre message auprès des politiques qui sont là aujourd'hui. Ça, c'était notre but premier et on se rend compte qu'en fait, on a complètement dépassé le but premier et que ce qui a été beaucoup plus enrichissant dans cette expérience et dans cette démarche-là, ça a été la mobilisation de toute une communauté, la sensibilisation des gens autour, le fait de voir des gens qui viennent une fois se renseigner, qui reviennent à la prochaine rame. Enfin voilà, en fait, c'était vraiment, je pense que c'est vraiment ça la valeur ajoutée la plus importante qu'on a apportée dans ces rames.
Est-ce qu'une manif de surfeurs, c'est plus efficace qu'une manif classique pour sensibiliser ?
Je pense pas que ce soit plus efficace, mais c'est complémentaire parce qu'on a un rôle vraiment de témoin par rapport à l'évolution de la pollution des océans, tout ça. On y est, on est dedans, on le voit, et du coup, on a cette légitimité, ce message à faire porter aussi.
Les quelques centaines de personnes qui sont ici commencent à se jeter à l'eau sur leurs planches. Et il doit y avoir une cinquantaine de personnes sur la digue du port de Guétari qui regardent les surfeurs s'élancer au large. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez voir la rame ?
Oui.
Vous vous appelez comment ?
Nicole.
Ça vous fait quoi de voir toutes ces personnes ?
C'est la chair de poule. La chair de poule. Il est grand temps de réagir. Hein.
Les surfeurs sont arrivés à une cinquantaine de mètres de la digue au large et ils s'arrêtent et ils se mettent en cercle. Voilà les rameurs, les manifestants qui sortent de l'eau et j'en rejoins un qui a retrouvé des choses dans l'océan.
Qu'est-ce que j'ai trouvé? En fait, j'attendais que tout le monde rentre à l'eau parce qu'on m'avait confié une caméra pour filmer. Et en 3 secondes, voilà, j'ai trouvé du fil nylon, du plastique, du scotch et un coton-tige. Alors ça, c'est, j'imagine que c'est jeté dans les toilettes et bien, ça se retrouve dans l'océan.
Alors ça, tu l'as trouvé sur la plage ou dans l'eau?
Dans l'eau.
En ramant,
assis sur ma planche autour de moi, je regardais et voilà, j'ai ramassé 5-6 bouts de plastique.
Voilà, t'as eu une poignée pleine de plastique.
Voilà, donc c'est pour ça que je vais ramer, parce que c'est tout le temps.
Toi, t'es originaire du coin?
Oui, je suis né à Biarritz. Ouais.
Ton nom, c'est Pilou, c'est ça?
Pilou, ouais, c'est mon surnom, mais bon, c'est devenu mon prénom, quoi.
À surfeur de grosses vagues?
Bon, il paraît. En fait, c'est parce que je suis petit, on croit que les vagues sont grosses. Bon, merci à toi.
François Verdet, c'est ça?
Exactement, oui.
Tu es organisateur de Rame pour ta planète?
Co-organisateur, on est un groupe d'une dizaine d'organisateurs, voilà, qui ramont depuis 10 mois, dans la joie et la bonne humeur. Moi, je suis militant associatif depuis une douzaine d'années, donc effectivement, j'ai eu l'occasion, avec d'autres, de suivre un certain nombre de dossiers. En fait, en me promenant sur la plage, il y a une dizaine d'années de ça, j'ai trouvé des rondelles en plastique, en fait, et on ne savait pas du tout ce que c'était, donc on a enquêté assez longuement, et à force, on a réussi à savoir que c'était des supports pour les bactéries qu'on met dans les stations d'épuration. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces supports qui se retrouvaient sur les plages, mais quand je dis beaucoup, c'est des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers par endroit, là où il y avait des avaries. Donc c'est le dossier qu'on appelle des biomédias ou médias filtrants qui a pris, au début, qui a commencé ici sur la côte basque et puis qui a pris de l'ampleur puisqu'aujourd'hui il y a des pollutions signalées jusqu'en Tasmanie, donc c'est bien loin d'ici. C'est des pollutions qui sont toujours liées à une station d'épuration locale, mais disons que comme on a travaillé longtemps sur ce sujet et qu'on a accumulé beaucoup de données, qu'on a publié un rapport en français et en anglais de 150 pages, ben, on reçoit des sollicitations d'ailleurs de gens qui ont le même problème et qui voudraient en savoir plus.
D'accord, donc vous êtes devenu une sorte de référence sur cette question.
Contre mon gré, parce que très franchement, les stations d'épuration, c'est pas vraiment sexy. Hein.
Et ça, ces bits de microplastique, c'est parce que t'es un surfeur, que tu les as trouvés, que ça t'a choqué?
Ben, un surfeur, un promeneur, un amoureux de l'océan, ben, quand tu vas le plus souvent possible sur la plage, je pense que ça t'écœure en fait de voir tout ce plastique sur la plage. Et à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que je peux faire. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à militer dans l'associatif, en me disant je profite de la plage, je profite de l'océan. Quelque part, c'est un peu de mon devoir d'agir pour essayer d'améliorer la situation.
Donc là, je retrouve Gibus de Soultré, l'un des organisateurs de Rame pour ta planète, dans son garage. Il est en train de ranger les pancartes après la manifestation. Et c'est aussi un des créateurs de la fondation Surfrider. C'est une association de défense de l'océan.
On a tout un panel de panneaux qu'à chaque rame, on dispose sur le sable. Et le dernier, c'était chacun sa part de planète. Voilà. Le propos des scientifiques du GIEC, qui est de nous alerter sur les enjeux climatiques, perte de diversité, c'est pas le citadin qui est stressé du matin au soir avec son boulot qui peut en être le porteur et même y être sensibilisé. À l'inverse, tous les jouisseurs de la nature, que sont les surfeurs, les windsurfers, les gens qui font de la voile, les gens qui font de la randonnée, les gens qui vont tirer du plaisir par un plaisir à agir dans la nature en disant « Oh, que c'est beau, que ça me fait du bien ». Eh bien, si ces gens-là ne portent pas le message qu'il faut changer notre comportement pour préserver cette nature, qui va le faire, hein ? On change de comportement le jour où on a vécu quelque chose par le corps. Hein ? Les surfeurs, ils ont une chose qui est assez belle. C'est une population qui se retrouve dans l'eau. Et en fait, ils sont confrontés à une ressource rare. La vague est rare. Et qui plus est, quand on est sur un spot, le surfeur le sait, il y a une rentabilité par rapport au surf qui est totalement nulle. On est dans l'eau pendant à peu près une heure et demie et on est debout sur sa planche à glisser sur une vague, sur un total qui ne va même pas faire une minute pour les bons surfeurs. Une vague, c'est 15 secondes de glisse. Donc il y a une capacité humaine à tirer son plaisir et son équilibre avec une ressource un peu rare et à s'équilibrer. Les surfeurs ont été les premiers parmi les milieux sportifs à créer une association pour la sauvegarde de l'environnement, en créant Surf Rider Foundation en 1986 aux États-Unis et 1990 en Europe. L'attitude de Surf Rider a été d'être une association qui faisait tampon. Tampon entre des décideurs et des activistes dénonciateurs. Ça a commencé à l'échelon local, et après, c'est passé au niveau national et au niveau européen, et aujourd'hui, Surfrider a fait partie quand même des associations qui ont été, notamment lors de la COP21 en 2015, dans les coulisses avec la plateforme Océan Climat pour amener les considérations de l'océan dans les considérations du réchauffement climatique, et puis à un échelon plus européen, l'interdiction de l'usage unique du plastique, des objets usage unique en plastique, et bien c'est Surfrider qui a été un des porteurs de cette loi, enfin de cette action.
Les 4 jours de conférences sur l'océan qui sont organisés donc, par l'association Surfrider en amont du G7. Donc. L'événement s'appelle le Pavillon Océan. Ça se déroule au siège de la fondation Surfrider à Biarritz. Donc. Et Surfrider aujourd'hui, c'est bien plus qu'une bande de surfeurs. La preuve, c'est qu'on trouve à ces conférences des chercheurs, des hommes et des femmes politiques, et puis même le directeur général de Surfrider.
Alors Marlène, je me tourne vers toi quand Chad parle justement de déployer un projet d'énergie marine en mer.
Donc je rencontre Florent Marcou, on est là pour l'ouverture du pavillon océan organisé par Surfrider, et Florent Marcou, vous êtes directeur exécutif de Surfrider Europe, directeur général. Donc pourquoi avoir organisé ce pavillon océan à 4 jours du G7?
Alors depuis toujours pour Surfrider, il est très important de porter la voix de l'océan. L'océan est un acteur majeur de la régulation climatique. C'est un puits de carbone, c'est un puits de chaleur, c'est une source d'oxygène, c'est 50% de notre respiration. Donc une respiration sur deux, on la doit à l'océan. Donc c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui avec le pavillon océan en amont de ce G7. On a les grands de ce monde qui se réunissent. On souhaite qu'ils comprennent qu'il est important de porter l'océan au cœur de l'agenda politique et qu'ils prennent des mesures concrètes. Aujourd'hui, on a besoin de données. Alors on n'a pas vocation à se transformer en centre de recherche, voilà. Mais par contre, ce qu'on peut apporter, c'est des données issues du terrain que les chercheurs n'auront pas forcément parce qu'on va apporter de la masse, de la quantité, de façon assez massive. Je donne des exemples. On réunit les gens sur la plage, on leur fait nettoyer la plage. On va prendre un moment pour trier les déchets et les quantifier. Et donc, on va avoir la possibilité, à la suite de chacune de ces initiatives océanes, d'avoir des données sur quel type de déchets on retrouve. Et donc, d'obtenir le top 10, tout bêtement, le ranking des principaux déchets qu'on va retrouver sur nos plages, et de voir l'évolution dans le temps. C'est ça aussi qui est important, à la fois, pour voir quelles sont les problématiques majeures, ça c'est quantitatif, mais aussi pour voir, en fonction des mesures politiques, des politiques publiques qui peuvent être prises, s'il y a un effet positif qui se ressent, et si on voit bien une diminution de tel ou tel item. Commence à construire et à réfléchir sur comment travailler sur les pollutions chimiques. Et aujourd'hui, très peu, on parlait de la connaissance tout à l'heure, on connaît très peu de choses sur la pollution chimique de l'océan et sur tous ses impacts sur les écosystèmes, sur la santé humaine. N'importe quelle molécule chimique, on va la retrouver dans l'océan. La problématique est de savoir à partir de quel seuil elle va commencer à poser problème. En plus, une molécule chimique séparée d'une autre, aucune des deux peut ne poser problème, mais les deux ensemble, il peut y avoir cet effet cocktail. Donc là, on avait vraiment besoin de connaître plus la situation et la problématique, et puis de voir ce qu'il est possible de faire. Mais on peut imaginer, il y a des programmes qui existent, notamment avec Surfrider US, sur SmartFin, c'est-à-dire comment on utilise des planches de surf, et notamment leurs dérives, pour y mettre des capteurs et permettre, grâce aux surfeurs, d'avoir des données immédiatement collectées sur, je sais pas moi, le pH, la température de l'eau, sur différentes choses. Donc on peut imaginer, malgré tout, des programmes de sciences participatives autour de ça. Selon le degré de maturité de la société sur une problématique, on actionne plus ou moins tel ou tel levier, on va être plutôt lanceur d'alerte, on va faire de l'information, ou après on va lancer une campagne, on va faire de la science participative. On va s'adapter pour faire évoluer la société petit à petit et faire en sorte que les choses progressent. Quoi.
Bravo. Guillaume Baruc, adjoint au maire de Biarritz, chargé de l'environnement. Comment elle est venue cette envie de s'engager en politique, sans étiquette?
Ce qui a déclenché vraiment mon engagement, ça a été une image qui pour moi était intolérable, d'un déversement important d'eau usée sur la grande plage de Biarritz pendant que des usagers étaient encore dans l'eau. Donc ça, c'est une situation qui s'est produite en 2013.
Que fait la mairie de Biarritz par rapport à ce problème-là? Il faut rappeler quand même que la dernière fois que les plages ont été fermées, c'était le 26 juillet, il me semble, parce que les stations d'épuration débordaient en raison des fortes pluies.
Alors en fait, c'est pas la station d'épuration qui déborde à Biarritz. C'est un réseau d'assainissement qui a été fait comme ça au début des années 1900, qui mêle eau pluviale et eau usée. Donc nous, par rapport à ça, depuis le début du mandat, on a mis en place différentes mesures et on a réduit en tout cas les déversements sur la grande plage. On a réduit le volume de ces déversements, c'est ça qui est important. Mais par contre, des déversements se produisent toujours effectivement et trop fréquemment. Et en l'occurrence, moi je porte des solutions pour qu'on arrive à résoudre ça à moyen terme, notamment par le biais de la désimperméabilisation des sols. Le problème dans les zones urbanisées comme la Côte Basque, c'est que les sols sont de plus en plus imperméables et absorbent de moins en moins l'eau. Quand même, ce qu'il faut expliquer, c'est que pourquoi il y a encore des déversements alors qu'on fait des travaux pour les éviter. C'est qu'en parallèle des travaux qui sont réalisés, le climat continue de changer. Le climat sur la Côte Basque est en train de devenir de plus en plus chaud et humide. Et humide avec des pluies qui sont de plus en plus violentes sur un court laps de temps. Donc, on assiste en fait à ce qu'on appelle des pluies annuelles ou décennales, c'est-à-dire des pluies qui se produisaient avant une seule fois par an ou une seule fois tous les 10 ans. Et bien, ces dernières années, ce type de pluies-là, on les reçoit plusieurs fois par été. Donc, c'est ça aussi qui change la donne, c'est que le climat finalement se dérègle peut-être plus vite que ce qu'on a été capable de faire ces dernières années pour juguler ces effets secondaires.
Mathieu Orphelin, bonjour.
Bonjour à vous.
Donc vous êtes député du Maine-et-Loire, vous êtes venu à Surfrider, à la conférence de Surfrider qui a quand même été créée en 1990 par des surfeurs et notamment un triple champion du monde de surf. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un poids politique particulier sur ces enjeux-là?
Ben oui, parce que par exemple, là, on voit qu'ils ont été capables de créer, enfin en tout cas des surfeurs, de créer une ONG qui mine de rien. Voilà, c'est une des seules ONG en France, en Europe, dans le monde, qui est spécifiquement centrée sur cette question de l'océan, des pollutions marines, d'un rapport plus respectueux à l'océan. Donc c'est vraiment une ONG qui compte, on le voit avec ce qu'ils organisent aujourd'hui. Voilà, mais je crois qu'il faut aussi retrouver dans le combat écologique, dans le combat des organisations non gouvernementales, ce plaisir. Et je crois qu'aussi le surf, c'est ça, c'est le plaisir du rapport à la nature, à l'océan, à la vague, d'attendre la vague aussi. Après tout, la nature n'a pas tout à nous donner tout de suite. Le rapport à la nature, ça ne peut pas être qu'une consommation permanente.
Les rapports du GIEC, là, il va y avoir un rapport sur l'océan qui va paraître fin septembre. Pour vous, ça a quelle utilité?
Les rapports du GIEC, ils ont une grande utilité, c'est de mettre les hommes et les femmes politiques et l'ensemble des décideurs, plus globalement, devant leurs responsabilités, devant la réalité de ce qui se passe. Ça a l'air fou, mais il y a quelques semaines, j'ai fait venir Greta Thunberg, des jeunes citoyens français mobilisés sur le climat, mais aussi Valérie Masson-Delmotte, qui était vice-présidente d'un des principaux groupes de travail du GIEC et qui a présenté les travaux du GIEC à l'Assemblée nationale. Il y avait plus de 170 députés présents. C'était la première fois qu'elle était invitée à présenter des travaux du GIEC à l'Assemblée nationale. Ça paraît fou en 2019, pourtant c'est la réalité. On devrait imposer que tous les grands rapports du GIEC, bien sûr les rapports tous les 5 ans sur l'état de l'art, mais aussi les rapports pour éclairer une question, climat et sol il y a quelques semaines, climat et océan dans quelques semaines, et bien que ces rapports soient systématiquement présentés devant l'ensemble des décideurs, au Parlement, mais aussi peut-être que le gouvernement pourrait prendre l'habitude, à chaque fois qu'un rapport important sort du GIEC, de faire un séminaire gouvernemental sur ces questions-là. Pourquoi pas, pour voir comment effectivement aligner nos politiques, renforcer nos politiques. Je crois que c'est très important. Ce lien entre ce que nous dit la science et ce qu'en font les politiques, c'est quelque chose qu'il faut absolument réinventer. C'est très important parce que sinon, les politiques ne seront jamais à la hauteur.
Figure réalisée par François Porcheron. Françoise Gail, je rappelle que vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et coordinatrice scientifique de la plateforme internationale Océan et Climat, qui regroupe plus de 70 instituts scientifiques et ONG. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
Moi, je trouve que ce reportage est remarquable parce que moi qui suis scientifique, il est vraiment très complémentaire, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur la connaissance pour pouvoir diffuser l'esprit de cette connaissance et en s'appuyant aussi sur ce qu'on appelle le plaisir de la nature. C'est-à-dire, moi, c'est la connaissance de la nature, mais le plaisir de la nature, c'est aussi important. Et je trouve que des surfeurs qui peuvent justement parler en toute connaissance de cause de l'océan, parce qu'ils sont dessus, ils l'apprécient, ils donnent envie, en fait.
Oui, puis ils permettent de partager la science avec le plus grand public. Alors Alice Belin nous a rejoint, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chargée d'affaires en politique maritime européenne au sein de l'ONG Seas at Risk et vous êtes en ligne depuis Bruxelles. Comment réagissez-vous, vous, à ce reportage, à cette mobilisation des surfeurs, vous qui faites de la mobilisation anti-lobby à Bruxelles ?
Oui, eh ben, on réagit tout à fait positivement. On travaille d'ailleurs avec l'organisation Surfrider depuis de nombreuses années. Ils sont membres du réseau Cisatriste. On travaille avec eux de manière très proche sur les pollutions, notamment la pollution plastique. Et on a fait un énorme travail ensemble pour avoir une nouvelle législation au niveau européen sur les plastiques à usage unique. Donc le reportage, comme disait Françoise Gaël, ça montre effectivement l'ampleur de la mobilisation qui est capable de fournir une organisation comme Surfrider et plein d'autres organisations, sur un sujet aussi important que la pollution marine, pollution plastique dont il parle, mais aussi la pollution par les produits chimiques ou par les eaux usagées, qui est aussi évoquée dans le reportage.
Françoise Gaël, le rapport du GIEC met à nouveau les politiques face à leurs responsabilités. Encore faut-il qu'ils le lisent, ce rapport ?
Oui, tout à fait. C'est pourquoi la plateforme a fait un certain nombre de fiches qui sont plus ou moins explicites à destination du grand public ou des publics éclairés. Et donc, je pense que notre objectif à nous, c'est aussi de donner la possibilité aux politiques d'agir en toute connaissance de cause. Et là, avec ça, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Maintenant, on sait, et on sait qu'il faut agir. Comment ? Là, c'est le domaine aussi de la discussion avec la société, de pouvoir avancer dans les actions concrètes. Comme vous le savez, ce n'est pas forcément facile. Mais le pouvoir politique doit être responsable aussi de ses actes dans cette galère.
Et Alice Belin, est-ce que vous constatez, vous, à Bruxelles, le manque de lien entre scientifiques et décideurs politiques ?
Oui, absolument. Ça, c'est un problème généralisé quand on parle de politique environnementale. C'est-à-dire qu'on a énormément et de plus en plus de connaissances scientifiques sur le sujet, notamment sur le sujet de la mer. Le rapport du GIEC est évidemment une pièce maîtresse dans cette équation, mais il existe énormément d'informations scientifiques. La question après, c'est de transformer cette information scientifique en recommandations politiques pour les décideurs européens et l'utiliser pour pouvoir mener une action. Donc c'est par exemple un travail que nous on fait au quotidien, c'est-à-dire aller chercher l'information scientifique parce qu'on se base sur des faits scientifiques pour faire notre action de lobbying. Transformer cette information en recommandations concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, politiquement ? Qu'est-ce que peuvent faire les décideurs politiques ? Comment ils peuvent agir au quotidien ?
Et alors vous, Françoise Gaël, avec cette plateforme aussi, vous disiez, vous faites de la vulgarisation pédagogique, vous essayez aussi de sensibiliser. Vous avez été l'organisme qui a relu le rapport du GIEC en France avant sa publication. Ça vous donne un rôle important, un rôle peut-être d'intermédiaire. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que le gouvernement français est sensible à ces questions ? La France qui a quand même une façade maritime extrêmement importante ?
Oui, je pense que la France est tout à fait sensible. On est sur le bord d'une stratégie que le gouvernement pourra développer, mais je pense qu'il faut avoir conscience du fait que nous avons à la fois besoin d'agir localement. Donc, par exemple, les régions peuvent aussi avoir un rôle important. Puis, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine avec Surfrider est très importante dans la lutte contre le changement climatique. Il faut aussi, au niveau national, avoir des actions. Mais ça se passe aussi au niveau international, parce que ce qui se passe pour ce climat, c'est que tout est lié et c'est pas seulement, c'est vraiment supranational. Donc, il faut agir à tous les échelons. Et je pense que il y a deux idées fortes. La première, c'est trouver des solutions fondées sur la nature. Ça, c'est quelque chose de très important, plutôt que des solutions à ingénierie lourde. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut avoir un mixage entre les connaissances locales, la connaissance scientifique, et puis la connaissance sociale des risques, qui sont une nouveauté pour nos sociétés, mais qui nous permettront, en tout cas avec les générations futures, de pouvoir essayer de contenir en dessous de 2 degrés le climat dans l'avenir.
Enfin, aujourd'hui, on voit bien, hein, d'après les dernières études scientifiques, qu'on n'y est pas du tout, puisque les scientifiques prévoient qu'on sera à plus 2 degrés d'ici 2040 et voire à plus 7 degrés d'ici la fin du siècle. Alice Belin, sur justement les solutions qu'on pourrait dire naturelles pour limiter l'impact du dérèglement climatique sur l'océan, lesquelles retenez-vous dans le rapport ?
Alors, le rapport touche effectivement plus ou moins à ces solutions-là, mais ce n'est pas le sujet principal du rapport, qui parle surtout de la menace liée à la crise climatique sur les océans. Mais effectivement, notre message à nous, c'est de dire que l'océan, en plus de la crise climatique à laquelle il fait face, il est malade à cause des énormes pressions qu'il subit dues aux activités humaines sur terre et maritimes. Et donc, deux actions principales qui peuvent être mises en place très rapidement, c'est arrêter la surpêche et les pratiques destructrices de pêche qui arrivent, sont extrêmement communes dans l'océan global et également dans les européennes. Et deuxièmement, mettre en place un réseau d'aires marines protégées à un niveau de protection forte, voire un niveau de protection totale, c'est-à-dire où des activités humaines ne peuvent pas se produire, et qu'au moins 30% de l'océan global soit couvert par un réseau d'aires marines protégées. Donc ça, c'est deux solutions qui permettront de reconstruire la résilience de l'océan pour qu'il puisse faire face à ces changements inévitables, hein, auxquels il fait face à cause de la crise climatique. Il faut absolument reconstruire sa résilience, et pour ça, il faut arrêter les pressions, arrêter les impacts liés aux activités humaines, ou en tout cas les réduire fortement, et permettre aux habitats et aux écosystèmes marins de se reconstruire, de se restaurer au sein d'aires marines protégées dans lesquelles les activités humaines ne peuvent pas se produire.
Françoise Gaille, les aires marines protégées, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. De nombreux pays font des cartes en disant, voilà, on classe cette zone en aires marines protégées, ou celle-ci, ou celle-là. Mais on parle aussi de cartes un peu vides, hein, c'est-à-dire que ça existe sur le papier, mais dans les faits, sur le terrain, il ne se passe pas toujours grand-chose.
Oui, c'est vrai, mais là, il y a un mouvement qui est en train de se dessiner, et qui aura son point d'orgue l'année prochaine à Marseille avec le congrès de l'UICN, c'est quand même cet objectif vers lequel nous devons tendre de 30% des aires marines protégées. Donc ça, je crois que maintenant tout le monde est d'accord. À savoir maintenant comment on fait. Là, il y a deux types de cultures par rapport à ça. Il y a les cultures anglo-saxonnes qui sont pour la conservation de la nature, et puis il y a la culture plus, je dirais, européenne, qui est en faveur de la connaissance des usages et du compromis autour de ces usages. Je crois que c'est un grand débat que la société française va commencer à prendre à bras-le-corps aussi. Je crois que pour l'avenir, c'est justement, ça permet de mettre en exergue l'importance de l'océan par rapport à cette question de la biodiversité. Parce que autant pour le continent, les systèmes agro-écologiques, l'agriculture, disons, on connaît un certain nombre de choses, autant pour les bords de l'océan, on connaît beaucoup moins. Et donc, on a besoin là de tout le monde pour essayer de trouver des solutions pour savoir protéger un océan, puisque finalement, un océan protégé, c'est un climat préservé.
Alice Belin, vous parliez tout à l'heure des méthodes de pêche destructrices. On se souvient des débats récents, hein, sur la pêche électrique qui a été difficile à enrayer au niveau européen. Il faut d'ailleurs toujours rester extrêmement vigilant. Mais il y a d'autres pêches qui sont très destructrices. Alors il y a un peu un décalage entre les recommandations du GIEC, cet état assez dramatique de l'impact des changements climatiques sur l'océan, et puis ces combats au quotidien qui semblent être complètement d'un autre siècle et pourtant qui sont encore bien vifs et bien là.
Oui, tout à fait, même extrêmement vif et extrêmement présent. Comme vous le disiez, il y a eu un gros effort qui a été fait par rapport à la pêche électrique et grâce à des ONG, par exemple comme Bloom en France, on a réussi à endiguer le phénomène avant qu'il devienne trop commun dans les eaux européennes, donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait que quelques États qui faisaient la pêche électrique. Et bon, il faut rester vigilant, mais normalement, ça devrait effectivement être interdit. Mais en fait, d'autres pratiques très destructrices de pêche, voire peut-être plus destructrices même que la pêche électrique, par exemple le chalut, notamment le chalut de fond, ou alors la drague, qui détruisent les habitats marins, qui détruisent des écosystèmes marins, sont monnaie courante dans les eaux européennes. Il y a même une étude de décembre 2018 publiée dans le magazine Science qui a montré que l'intensité du chalut de fond est 4 fois plus élevée dans les aires marines protégées européennes qu'en dehors des aires marines protégées. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Comment c'est possible, ça ?
Oui, exactement. Et en toute légalité. Et c'est possible parce qu'aujourd'hui, les aires marines protégées en Europe sont seulement des tracés sur une carte, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas protégés dans les faits. Il n'y a pas de règlements qui sont pris ou de législations qui sont prises par les gouvernements pour arrêter les activités dans ces aires marines protégées. Et donc des activités comme le chalut de fond sont monnaie courante en toute légalité dans les aires marines protégées européennes. Et évidemment, avec des activités destructrices comme ça, les écosystèmes n'ont aucun... Donc, de reconstruire leur résilience face à la crise climatique. On en revient toujours à ça. C'est toujours le même message, c'est-à-dire qu'il faut laisser les écosystèmes marins, leur laisser la possibilité de se restaurer, de se reconstruire pour qu'ils puissent faire face à ce phénomène monstrueux qui arrive sur eux. Et donc, les pratiques destructrices de pêche, monnaie courante dans les eaux européennes, mais aussi dans les eaux mondiales, évidemment.
Alors voilà, on n'aura pas le temps évidemment de détailler tout ce rapport du GIEC, hein, je vous le disais, 900 pages qui font vraiment froid dans le dos, mais qui aident à comprendre cet écosystème essentiel qu'est l'océan. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Et puis Françoise Gaël, hein, vous le disiez, vous avez fait un réel travail de pédagogie autour de ce rapport. On vous en remercie. Donc je le dis aux auditeurs, hein, si vous voulez prendre connaissance du rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère, je vous invite à aller sur le site de la plateforme océan, océan-climate.org. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, hashtag CPDV, ou nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.